bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1 ce lundi matin. Nous sommes le 4 octobre et on reste ensemble jusqu'à 6h30.
Quel beau voyage. Quel beau voyage tu m'as fait faire. Je pars, je suis mort. Je reviens, il y a la vie, il y a l'amour, il y a tout. C'est inimaginable.
Il avait été aussi acteur, Bernard Tapie, avec ce rôle annonciateur dans Homme-femme mode d'emploi de Claude Lelouch. Acteur donc, mais aussi chanteur, vendeur de téléviseurs, homme d'affaires, député, ministre, président de l'OM, présentateur d'émissions, patron de presse. Il a fait aussi de la prison. Bref, Bernard Tapie a vécu mille vies avant de s'éteindre hier à l'âge de 78 ans. Mille vies qu'a tenté de synthétiser dans un livre sorti en juin son biographe, Franz-Olivier Gisbert. Il sera notre invité à 6h10. Dans l'actualité également, Omblin, cette proposition de loi qui sera examinée en séance publique demain à l'Assemblée nationale.
Un texte qui compte interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne née dans les années 70 aux États-Unis. Des programmes menés par des mouvements chrétiens ou évangéliques ont pour but de guérir, disent-ils, les homosexuels et les transsexuels, comme si c'était une maladie. Ces thérapies de conversion sont implantées en France depuis le milieu des années 90 et le phénomène s'est amplifié après la manif pour tous. Bientôt, celles et ceux qui prétendent soigner l'homosexualité et la transsexualité seront donc hors la loi. On en parlera à 5h40 avec le journaliste Jean-Louis Adenor, co-auteur d'un livre à ce sujet qui s'appelle « Dieu est amour ».
Le lundi, on a le plaisir de retrouver Margot Barallon dans la prescription culture. Pour son choix série, elle va nous conseiller « Y, le dernier homme », plongé dans un monde où seules les femmes survivent à une terrible épidémie. Tous les hommes, eux, sont décimés, sauf un. Rendez-vous à 6h15. Et puis votre partition, Blin, à 6h20.
La plus grande chanteuse de blues rock de l'histoire. Janis Joplin dans la partition. Nous serons en 1969 lorsqu'elle quitte le groupe qui l'a fait connaître et se lance en solo.
Voilà pour une partie du programme. Bon lundi à tous. On commence tout d'abord avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Alors
bonjour.
Vous serez avec nous d'ici quelques minutes, il y a eu un petit problème de taxi ce matin.
Ça,
en tout cas, attention aux fortes pluies dans le sud ce matin.
Oui, c'est vrai qu'on a eu un week-end très agité côté pluie. Alors ça continue ce week-end, particulièrement dans la vallée du Rhône, hein, de Lyon jusqu'en Provence, jusqu'en Côte d'Azur et même en Corse cet après-midi. Alors partout ailleurs, on a un ciel qui reste nuageux ce matin. Et puis dans l'après-midi, les pluies vont rester très fortes dans le sud-est. On va vraiment suivre de ça de près parce qu'on attend des orages assez violents avec des cumuls importants sur Nice et l'arrière-pays niçois. Donc on va suivre ça tout au long de la matinée sur Europe 1, évidemment. De l'Alsace à la vallée du Rhône, là on a un ciel plutôt gris avec des averses dans l'après-midi. Et puis partout ailleurs, sur le reste du pays, c'est un temps qui redevient normal. C'est un ciel de traîne qui se met en place avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures ce matin, on a 4 petits degrés à Poitiers, 9 à Paris et Clermont-Ferrand, 11 à Bordeaux, 18 à Bastia. Et alors cet après-midi, 13 à Saint-Étienne, il fait frais, 19 à Paris. Puis alors on a un microclimat impressionnant avec 31 degrés pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bonne route et place à l'info avec le premier journal de ce lundi. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Pluie d'hommage après le décès de Bernard Tapie hier des suites d'un cancer. Homme d'affaires, ancien président de l'OM, chanteur, comédien et même ministre. Retour dans un instant sur le parcours d'un homme qui aura vécu mille vies. L'Église s'attend à une onde de choc. Publication demain du rapport explosif de la commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église. 2 ans et demi d'enquête, 1300 pages et ce chiffre, environ 3000 pédocriminels recensés depuis les années 50. Et puis 17 ans après le naufrage du Bugalette-Braise, les familles des 5 victimes espèrent enfin obtenir la vérité. Ouverture ce matin à Londres de 3 semaines d'audience. Et à 5h, le journal vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Messe célébrée après-demain à Paris en mémoire de Bernard Tapie. Avant l'ouverture d'une chapelle ardente au stade Vélodrome jeudi, ses obsèques se dérouleront le lendemain à 11h à la cathédrale Major à Marseille. Puis il sera inhumé au cimetière de Mazargues. Bernard Tapie, le Parisien le plus apprécié des Marseillais, est décédé hier matin à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer de l'estomac et de l'œsophage. Parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère présents à son chevet, précise sa famille dans un communiqué. Il s'est éteint chez lui, rue des Saints-Pères, en plein cœur de Paris. Marion Gauthier, vous revenez pour nous sur 50 ans de vie publique.
Qu'est-ce qui fait marcher la vie ? Qu'est-ce qui fait marcher la vie ?
Lorsqu'il se filme dans la publicité pour les piles Vonder, Bernard Tapie est déjà survolté. Parti d'un tiroir du bas, comme il le répète, il est en 1986 un repreneur compulsif d'entreprises achetées un franc symbolique revendu des millions. Un bonhomme à succès décomplexé qui s'affiche dans un cours de gym télévisé en collant vert et body rouge avant d'acheter Adidas, le géant de l'équipement sportif, en 1990.
C'est, à part la naissance de mes enfants, sûrement un des plus beaux jours de ma vie.
L'affaire de sa vie qui s'écrit rapidement devant les tribunaux. En 1993, Bernard Tapie revend Adidas au Crédit Lyonnais qui l'accuse plus tard d'escroquerie. Les démêlés judiciaires s'accumulent, les guignols campent un personnage de bonimenteur dans la mémoire populaire. Mais Tapie poursuit son ascension, député des Bouches-du-Rhône, ministre de la ville. En 1993, il devient le boss en emmenant l'Olympique de Marseille au sommet du football européen. L'affaire VAOM, un match truqué, lui vaut la prison. L'ambitieux laisse la politique pour le cinéma et le théâtre. Il se réinvente écrivain, patron de presse. Il boxe contre le cancer à partir de 2017.
Ce qui est important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Et j'ai réussi ma vie.
Le match a duré 4 ans. La voix de stentor de Bernard Tapie s'est perdue progressivement. Il s'est éteint hier, entouré de ses proches.
Rien ne semblait l'arrêter. La lettre hommage d'Emmanuel Macron dans la Provence ce matin. Le président insiste sur un Bernard Tapie animé par une force, une volonté, une rage de vaincre qui semblait dire à tous ceux qu'il croisait « gamin ». Tout est possible. Emmanuel Macron, grand fan de l'OM, seul club français champion d'Europe. Et justement, sur le terrain en 1993, Basile Boli, unique buteur de la finale, joint par Lionel Rousseau dans Europe 1 Sport, il revient sur sa relation avec Bernard Tapie. Son passage à l'OM marquera à jamais sa vie.
Il a beaucoup compté pour moi. Les 5 ans que j'ai passé à Marseille, c'est 5 titres et 2 Coupes de France et une finale perdue, une finale gagnée. En même temps, il a révolutionné le football. Il est arrivé, c'était Bez, le patron, c'était Compora. Il a mis le pied sur la table en disant « bon, là c'est moi ». Il a changé complètement. Avant à Marseille, on allait voir le match de foot et puis après on rentrait à la maison. Mais il a instauré les feux d'artifice, il a fait du foot un show à Marseille. Donc il a laissé vraiment ses empreintes là-bas.
Basile Boli, joint par Lionel Rousseau dans Europe 1 Sport.
Il est 5h04, on en vient à l'église catholique française qui se prépare demain à une onde de choc inédite.
Avec la publication du rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité depuis 1950, 2 ans et demi d'enquête commandée par l'église elle-même, la conférence des évêques de France et les religieux et religieuses de France. Un rapport indépendant, Virginie Riva, et vous nous le rappelez, très complet aussi.
Oui, c'est un énorme travail qui va être présenté, plus de 1300 pages au total. Le document principal analyse l'attitude de l'Église dans sa gestion de la pédophilie depuis les années 50 et formule 40 préconisations. À côté, un rapport historique de 600 pages où les membres de la commission sont allés enquêter dans les archives centrales de l'Église de France, mais aussi dans un tiers des diocèses et dans des instituts religieux. Et puis, la partie la plus attendue, quantitative, une enquête IFOP réalisée auprès d'environ 30 000 personnes pour estimer le nombre total de Français victimes de pédophilie en France, comparé aux autres violences sexuelles subies durant l'enfance. Philippe Portier, membre de la commission Sauvé.
Je ne peux pas évidemment donner de chiffres, mais Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui connaît les chiffres, qui est président de la conférence des évêques de France, a signalé que le phénomène était d'une ampleur finalement assez insoupçonnée. Le niveau d'abus dans l'Église n'est pas négligeable du tout, même si, encore une fois, la famille est vraiment le premier lieu de constitution des abus.
Les investigations font aussi apparaître une église qui, jusqu'à une période toute récente, sait et ne fait rien, attachant beaucoup plus d'importance à la défense de l'institution qu'à la souffrance des victimes.
Et un seul nombre a d'ores et déjà été communiqué, entre 2900 et 3200 pédocriminels recensés dans l'église depuis 1950. Estimation minimale, précise le président de la commission qui a enquêté. Certaines sources au gouvernement et dans la commission avancent aussi, à Virginie Riva, un nombre de victimes supérieur à 100 000. Des milliards et des milliards dissimulés dans des sociétés offshore à des fins d'évasion fiscale. Voici les Pandora Papers. Enquête publiée hier par le Consortium international des journalistes d'investigation. Près de 12 millions de documents étudiés. 336 dirigeants et responsables mis en cause. Parmi eux, Dominique Strauss-Kahn, mais aussi la chanteuse Shakira ou encore le roi Abdallah II de Jordanie.
À Londres, peut-être la fin du mystère dans le naufrage du Bugalet Braise qui avait fait 5 victimes.
Avec l'ouverture ce matin de 3 semaines d'audience pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé ce 15 janvier 2004. Des audiences qui reprendront l'enquête depuis le début, à savoir le naufrage en quelques secondes du chalutier qui a coulé à pic pour se retrouver au fond des eaux au large des Cornouailles, zone où se déroulaient des exercices militaires internationaux. Sandrine Prioul.
Arrêter, disent-ils, de nier l'évidence et 17 ans plus tard, prouver que c'est bien un sous-marin de la Royal Navy qui a harponné un filet du chalutier. La justice britannique va entendre tout le monde, même sa propre armée et notamment le commandant du sous-marin, se réjouit pour les victimes, maître Dominique Tricot.
Les marins ont une dignité, un honneur, une solidarité qui à un certain moment sera plus forte que l'omerta qui leur est imposée par leur marine nationale. Et je regrette que c'est finalement la justice anglaise qui se décide à consacrer à cette affaire l'importance qu'elle mérite.
Exhumer certains rapports négligés en France, voilà aussi ce qui incite maître Anis Arabi à l'optimisme.
Depuis 3 ans, les autorités judiciaires anglaises ont montré qu'elles accordaient de l'importance à ce dossier, transféré à Londres, pour lequel on a réservé 3 semaines d'audience, des dizaines de témoins. C'est une chance unique qu'on a là de parvenir enfin à la vérité. Les familles misent beaucoup d'espoir sur cette procédure.
Des familles qui suivront en visio l'intégralité des audiences pendant 3 semaines.
Sandrine Prioul, correspondante pour Europe 1 dans l'Ouest. La revanche d'Alger. Les avions militaires français interdits de survoler l'Algérie pour rejoindre le Sahel suite aux propos d'Emmanuel Macron communiqués par Le Monde samedi. Le président estimerait que le pays s'est construit sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Fin de la 9e journée de Ligue 1 hier soir avec la victoire de Monaco sur Bordeaux 3-0, défaite de 3 à Nantes 2-0. Match nul 1-1 entre Lorient et Clermont, même score pour le derby Saint-Étienne-Lyon.
Et puis la défaite du Paris Saint-Germain 2-0 face au Stade Rennais. Une idée sortie pour terminer, une idée de sortie on va faire en famille à Paris, la Philharmonie des enfants.
Du côté de la Villette, 1000 mètres carrés consacrés aux 4-10 ans, ingénieurs, savants fous, designers ou encore chorégraphes, plus de 200 personnes travaillent depuis 3 ans à concevoir la Philharmonie des enfants. Ils peuvent toucher, manipuler. En bref, les petits sortent de l'écoute passive et restent mobilisés. Reportage de Laure d'Autriche.
Face à un orchestre virtuel, les enfants se mettent dans la peau du chef d'orchestre. Leurs mains se lèvent, la musique plus ou moins rapide s'adapte à leurs bras qui s'agitent.
On gère un peu le rythme.
C'est fantastique parce qu'on peut vraiment joindre les gestes à l'image. Et j'ai beaucoup aimé également le pianographe qui permet de faire des dessins en jouant simplement du piano et c'est vraiment fantastique.
Avec l'aide d'une paire de chaussures ou d'un gant de boxe, ils peuvent aussi réaliser le bruitage de fragments de films de Chaplin. Ici, la musique est un jeu, dit Mathilde Michel-Lambert, la directrice de la Philharmonie des enfants.
On sait que la musique produit des effets qui sont importants dans la vie des enfants, notamment des petits en développement. Donc si on leur donne le goût pour l'écoute et puis pour la pratique éventuellement, sans avoir un objectif d'en faire tous des musiciens, alors on se dit qu'on aura réussi notre pari.
Voilà un lieu unique en France où l'apprentissage passe par le corps, par le chant, par le jeu, comme cela se pratique par exemple en Scandinavie ou dans certains pays de l'Est de l'Europe.
La Philharmonie des enfants à Paris ouverte les mercredis, les week-ends et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h10 et on passe aux courses sur Europe 1, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Enghien. Et mon pari gagnant sera le 409 Appleoise As. Cette trotteuse d'origine italienne alterne avec réussite des performances chez elle en Italie, mais aussi en France, à Vincennes et à Enghien. Et pour son retour dans l'Hexagone, elle ne peut rêver meilleures conditions de course, étant située juste à la limite de la qualification au niveau de ses gains. Dès lors, elle ne devrait avoir aucune difficulté à s'imposer Notez bien, pour cet après-midi à Enghien, réunion 1 dans la quatrième course, le numéro 9, Applewise Ass.
Le numéro 9, c'est noté. Merci Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Vous écoutez Europe 1, on se retrouve dans moins d'une minute avec votre traditionnelle revue de presse un brin décalé.
Oui, c'est le pressing. Et au menu ce matin, comment faire quand on se fait voler son QR code? On parle de passe sanitaire, bien sûr. Les viandes de synthèse ne sont pas forcément plus saines et les accidents domestiques seront passés à la loupe. À tout de suite.
Votre matinale info, c'est Europe Matin, présenté par Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, bienvenue.
6h40, l'interview écho. 7h10, l'édito international. 8h40, le débat autour des coulisses de l'actu.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Rendez-vous tous les matins, 6h30 sur Europe 1.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h12, bon lundi, bon début de matinée, on ouvre les journaux. Oui, c'est le pressing avec Martin Lange qui nous a rejoint. Bonjour Martin.
Bonjour Omeline, bonjour Julien.
Bonjour Martin. Alors avant de vous raconter les articles que l'on a choisis, un rapide coup d'œil tout d'abord sur les unes de vos journaux qui reviennent tous sur la disparition hier de Bernard Tapie. La rage de vaincre, titre Le Figaro. Le battant, ajoute aujourd'hui en France. À jamais le boss, peut-on lire à la une de l'équipe. Toute affaire cessante, ajoute pour sa part Libération. Un tout autre sujet à la une de La Croix. Abus dans l'église, l'éprouvante enquête, titre le journal au sujet de ce rapport qui sera rendu demain sur les violences sexuelles commises au sein de l'église catholique française depuis 1950. Voilà pour les unes. Omblyne, quel article avez-vous retenu ?
Avec l'arrivée du pass sanitaire dans nos vies, comme tout outil numérique, il apporte avec lui son lot de fraudes. Un QR code comme une identité sur Internet, eh bien ça se vole, c'est-à-dire dans Le Parisien aujourd'hui en France, depuis une semaine et demie maintenant, un dispositif est mis en place pour désactiver votre QR code. Et pour le moment, seulement 522 demandes ont été reçues. C'est évidemment une goutte d'eau dans un océan de pass sanitaires frauduleux. Il en circule 36 000. 36 000 identifiés par l'assurance maladie.
Dont celui d'Emmanuel Macron.
Pourquoi si peu de demandes de désactivation alors? Car ce dispositif spécial mis en place par le gouvernement est tout récent et il est plutôt méconnu. Alors, on en vient à la minute pratique du pressing, le comment faire? Comment faire quand on pense qu'on s'est fait voler son QR code et qu'on souhaite le faire désactiver? Il faut l'envoyer avec un justificatif d'identité à l'adresse revocation-passe-sanitaire@sante.gouv.fr.
Ils ont toujours un chic pour trouver des adresses mail
de tête
extrêmement simples. Hein.
Vous tapez dans Google désactivation QR code. Hein. Ça va être beaucoup plus rapide. Une personne va traiter votre demande, pas un ordinateur. Et si votre dossier est complet, normalement, votre QR code doit être désactivé dans les 72 heures. Ensuite, il faudra en générer un nouveau parce que vous allez vouloir continuer à aller au restaurant et au cinéma, évidemment. Et pour cela, vous passez par Amélie, le site de l'assurance maladie. Alors pour le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, surtout que cette démarche peut être reproduite autant de fois qu'on le souhaite. Donc si vous pensez que votre QR code a été volé, désactivation et nouveau QR code. Quant au QR code qui a été subtilisé, eh bien là où les personnes qui vont tenter d'entrer avec dans un restaurant par exemple, qui feront scanner leur passe sanitaire, verront s'afficher le mot « frauduleux » en rouge. Il risque donc jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison. C'est la même note salée hein, pour une utilisation de faux passes sanitaires. Le gouvernement compte justement sur la peur de voir apparaître cette inscription en rouge frauduleux pour décourager l'usage de faux. Voilà, on a volé mon QR code dans Le Parisien et aujourd'hui en France.
Merci beaucoup, Omblyne. Martin, à vous.
Est-ce que vous mangez toujours de la viande, Omblyne, Julien ?
Eh oui.
Oui.
Mais de manière raisonnable.
Vous en mangez moins ?
Oui, c'est vrai.
Ça dépend.
C'est vrai. Ça dépend de l'année, de la saison.
La viande qui est souvent pointée du doigt dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est vrai qu'en 25 ans, l'équivalent de l'Inde, un sous-continent quand même, a été déforesté pour faire place à l'élevage, donc pour produire de la viande. Et face à ce constat, la solution toute trouvée, c'est de réduire sa consommation de viande, comme vous, Omblyne, voire même d'arrêter complètement d'en manger. Selon un récent sondage, 48% des Français, presque 1 sur 2, disent avoir réduit leur consommation carnée. Et pour remplacer cette viande, les protéines végétales ont la cote, notamment les produits transformés comme le steak de soja, la viande de synthèse ou encore les galettes de champignons. Sauf que d'après un article de The Independent repris par le site Slate, ces produits transformés ne sont pas vraiment bons pour la santé. La journaliste du quotidien britannique a goûté et comparé 3 plats industriels avec un plat à base de poulet et le constat est édifiant. Le plat à base de champignons est 2 fois plus salé que le poulet, le steak de soja est beaucoup plus calorique et pour le simili haché de bœuf, la viande de synthèse, c'est la totale. Il est plus salé salé, plus calorique et plus gras. Bref, morale de l'histoire, hein, mieux vaut manger de la viande. Dit comme ça, ça paraît un peu caricatural, mais c'est vrai que végétarien ou non, les produits ultra transformés sont souvent moins sains, avec plus d'additifs, de conservateurs et une valeur nutritive moindre. Alors je vous vois venir, Julien, il ne faut pas que ça vous serve d'alibi pour vous gaver de viande.
Non, moi je mange de la viande, allez quoi, une à deux fois par semaine maximum.
Ça reste raisonnable.
C'est de la bonne.
Exactement. Si vous cherchez une alternative à votre entrecôte frite, hein, privilégiez des protéines végétales non transformées comme les lentilles, les haricots ou les noix. Et viande ou non, hein, n'abusez pas des produits industriels. Les substituts de viande ou simili-carnés ne sont pas forcément plus sains, c'est à lire sur le site Slate.
C'est excellent les lentilles, bien préparées.
C'est vrai.
Un petit salé.
Ah, bon, ah ouais, je t'ai dit,
bah, quand même un peu.
Alors, c'est pas ce qu'il disait, Martin.
Non, mais bon, comme tout, on entend ce qu'on veut bien entendre.
Voilà, c'est, on adapte.
Voilà, merci Martin. Une question joyeuse à présent. Savez-vous où l'on se tue le plus ?
Sur la route ?
Ah oui, c'est ce que j'aurais dit aussi, sur la route.
Eh bien non, c'est chez nous, à la maison.
Ah, mince.
Les accidents de la vie courante font 20 000 morts par an et 56% d'entre eux ont lieu au domicile, rapporte ce matin le Figaro. Or, 20 000 décès par an, bah, c'est tout de même 6 fois plus que sur les routes où il y a un peu plus de 3 000 victimes annuellement. Alors, pour mieux prévenir ces accidents largement évitables, des chercheurs suivent depuis 2015 une cohorte, comme on dit, plutôt un panel de 26 000 personnes au quotidien. Leur objectif, notamment, identifier les lieux les plus accidentogènes. D'où ma question, Ombline, Martin, savez-vous se produisent à la maison le plus d'accidents?
Bon, bah, la cuisine.
Ouais, la cuisine, j'allais dire aussi.
Eh bien non,
c'est tout faux.
Vous n'êtes pas totalement, mais l'endroit où il y a le plus d'accidents, c'est dans le jardin. Il représente à lui seul un tiers des accidents, principalement dus à des chutes. Il faut arrêter d'utiliser une échelle ou un escabeau bancal pour tailler les arbres au printemps, ou alors laisser ça à des professionnels. Viennent ensuite le salon et surtout la cuisine, c'est là où vous avez raison. C'est la pièce la plus accidentogène ramenée au temps qu'on y passe. Avec le succès des émissions de cuisine, nous voyons de plus en plus de plaies de couteau survenant surtout à l'épluchage, confirme un chirurgien de la main. Et puis il y a aussi les brûlures. Attention à la queue de casserole d'eau bouillante qui dépasse de la gazinière et que l'on fait tomber sur nos pieds nus en la heurtant, ou pire, que saisissent les enfants. D'ailleurs, il est bon de rappeler les règles d'or pour prévenir chez les tout-petits ces accidents. On installe, s'il vous plaît, des barrières de sécurité au niveau des escaliers. On évite de placer un meuble sous une fenêtre non sécurisée, meuble que pourrait escalader l'enfant. La suite, je vous laisse l'imaginer. On ne laisse jamais un nourrisson dans son bain sans surveillance. On met tous les produits ménagers, les médicaments et les piles sous clé. Ça vaut d'ailleurs aussi au passage quand on a des chiens, je parle en connaissance de cause, ça vous évitera de longues nuits aux urgences vétérinaires et avoir à débourser quelques milliers d'euros.
Et juste aussi dans la cuisine, on n'y pense pas, mais quand on laisse le lave-vaisselle ouvert avec les couverts point de oui. Couteau vers le haut
une
aussi.
Chute,
une chute dessus. Voilà. Oui. Non, mais ça, on n'y pense jamais à ça.
Ou alors on met les couteaux vers le bas.
Oui, mais on ferme le lave-vaisselle.
Quant au bricolage, grande source d'accidents domestiques, un médecin donne quelques conseils dans l'article. On évite de jouer de la scie sauteuse en étant pressé ou après une longue journée de travail. Évidemment, on ne boit pas d'alcool avant. Et puis on met des gants et des lunettes de protection, même s'il s'agit juste de faire un trou dans un mur. Enfin, sachez que la pièce où vous êtes le plus en sécurité, ce n'est ni le grenier, ni la cave, mais la salle de bain. On évitera bien sûr de se sécher les cheveux en prenant un bain.
Oui, sinon c'est Claude François,
vous
c'est
avez
ça
pas mis ouais. Une petite chanson de Claude François, j'adore.
Non.
Vous n'avez pas apporté celle-là.
Non, le mauvais goût s'arrête là.
C'est ça. Et alors surtout les alliances, vous savez quand on bricole et que si
oui,
on n'est pas
avec
dedans,
le clou qui peut se mettre dessous.
Exactement, on peut se faire arracher le doigt très très facilement.
Voilà, bon appétit.
Merci Julien, mais c'était tellement pratique et il faut bien rappeler ces règles. On termine ainsi ce pressing et Martin, on vous retrouve safe, hein, en toute sécurité dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
Le sport, c'est sur le canapé uniquement.
Voilà, très bien, à tout à l'heure.
Tout
merci.
À l'heure.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce lundi. C'est le journal permanent tout en sécurité avec Alban Le Prince.
Plus d'hommages depuis le décès de Bernard Tapie hier des suites d'un cancer à l'âge de 78 ans. Avec notamment une lettre d'Emmanuel Macron dans la Provence, son souffle continuera d'habiter la cité phocéenne, assure le président. Une messe sera célébrée après-demain à Paris. Le lendemain, le stade Vélodrome accueillera une chapelle ardente. Obsèque prévue vendredi matin à la cathédrale Major. Il sera ensuite inhumé
inhumé au cimetière de Mazargues. Les Pandora Papers, nouvelle enquête publiée hier par le consortium international des journalistes d'investigation. Des milliards et des milliards auraient été dissimulés dans des sociétés offshore par 336 dirigeants et responsables. Parmi les mises en cause, Dominique Strauss-Kahn, la chanteuse Shakira ou encore l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. L'Algérie en colère, interdit le survol de son pays aux avions militaires français. Réponse aux propos d'Emmanuel Macron communiqué dans Le Monde ce week-end, estimant que le pays s'est construit sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire.
Il est 5h21, très bon réveil à tous. Avec à présent les initiatives en France, on met en lumière chaque matin celles et ceux qui font bouger les lignes, celles et ceux qui osent.
Bonjour Robin Goncet.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes étudiant en 6e année de médecine à Grenoble et vous êtes devenu ces derniers mois une star des réseaux sociaux grâce à vos vidéos sur TikTok. Vidéos dans lesquelles vous opérez non pas des humains ou des animaux mais des fruits. Expliquez-nous.
Oui, tout à fait. Alors, j'opère des fruits. Ça a commencé lors du premier confinement. Je sortais d'un stage de chirurgie de la main et j'ai beaucoup suturé au cours de ce stage. Ça me manquait de suturer. Et puis, comme tout bon étudiant en médecine, je me suis mis à le faire sur des fruits. Et j'ai installé l'application TikTok au même moment. Et je leur ai mis des yeux, donné un prénom et raconté une petite histoire qui était un prétexte pour suturer. Au début, rien de scientifique. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé en vulgarisation médicale pour expliquer comment... passait des vraies chirurgies sur des fruits dans un bloc opératoire.
Parce que désormais, les apprentis chirurgiens, ils opèrent des fruits, ils ne s'entraînent pas plutôt davantage sur de la peau de porc ?
Ah, pas vraiment, non. Enfin, les fruits, la peau de porc, c'est peut-être bien quand on est étudiant au tout début, mais on s'entraîne plus souvent quand même sur des cadavres ou sur des fausses peaux. Les fruits, la peau de fruit, elle est même plus fragile que celle d'un humain. C'est pas très représentatif, je vous l'accorde, mais c'est plus le format qui est ludique et coloré qui est sympa sur le fruit.
Alors, il faut préciser que vous racontez des histoires à travers ces fruits. Vous la videz, vous leur donnez des prénoms, vous racontez leur parcours, vous expliquez pourquoi vous les opérez. L'idée, c'est d'être à la fois ludique et pédagogique.
Oui, tout à fait. Par exemple, comme vous l'avez dit, j'appelle une orange Emma. Emma, elle a un accouchement qui est classique. Puis survient le fait que son bébé, le battement de son cœur ralentit. C'est donc ça, c'est ce qu'on appelle un code rouge. Nous, on peut voir ça aux urgences gynécologiques couramment. Et donc, on va procéder à une césarienne en urgence. Et donc, moi, sur Emma, l'orange, donc sur l'orange, je vais représenter avec de la pâte à modeler ou avec d'autres fruits les différentes couches du corps humain, les muscles, le péritoine, l'utérus, et représenter ma césarienne comme ça. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vrais organes, c'est plus facile à regarder et j'essaie d'expliquer comment se passe donc cette césarienne au grand public pour regarder et d'être le plus ludique et faire de la vulgarisation. Quoi.
C'est des vidéos très courtes, mais j'imagine que ça vous demande beaucoup de temps à les réaliser.
Oui, absolument. Les vidéos font moins de 30 secondes et quand c'est une vidéo simple, par exemple, où je représente un hématome intracrânien où je vais mettre de la confiture sous une peau d'orange, ça va bien se passer, ça va durer une heure. Mais par exemple, quand je fais une ligature de trompe ou une grossesse extra-utérine, où je représente l'utérus, les ovaires, les trompes, ça c'est un peu plus d'organisation, je peux aller jusqu'à 4 heures pour faire une vidéo.
Vous faites des opérations sur ces fruits que vous n'avez jamais réalisées sur des humains en tant qu'étudiant ?
Alors moi, en tant qu'étudiant, forcément, je suis influencé par mes différents stages auxquels je suis passé. Je suis passé en gynécologie, je suis passé en orthopédie, en chirurgie de la main, et forcément, ça influence et... Ces opérations, j'y ai participé en tant qu'assistant, pas en tant qu'opérateur principal, évidemment. Et celles que je n'ai pas vues, je me renseigne sur des vidéos YouTube et surtout sur mes cours, sur mes collèges. On a des gros bouquins, des référentiels d'urologie qui expliquent très bien. Et j'essaie d'être le plus fidèle possible à la réalité pour pas faire d'erreurs, médicales.
Et vous avez des retours sur ces vidéos ?
Ouais, j'ai beaucoup de retours du grand public qui trouve ça une bonne manière de pouvoir regarder de la chirurgie sans tourner de l'œil. Et surtout, vraiment, c'était le plus important pour moi, c'était d'avoir la validation de mes pairs, de mes collègues. Et vraiment, j'ai des internes, des médecins qui trouvent ça génial. C'est d'être le plus fidèle possible à la réalité, ils me le rendent bien. Et il y en a même qui ont proposé du matos de l'hôpital, du matériel pour essayer d'élaborer un peu plus certaines opérations. Et vraiment, c'est génial.
Vous avez déjà eu vent de chirurgiens qui auraient montré vos vidéos à leurs patients pour leur expliquer l'intervention qu'ils allaient subir ?
J'ai eu le professeur Didier Redmuller, chef de service de gynécologie, dont j'ai eu la chance, qui a pu voir quelques-unes de mes vidéos, qui voulait l'utiliser lors de ses séminaires pour expliquer qu'on pouvait expliquer aux patients, des fois avec des choses simples, comme avec mes vidéos par exemple, comment allait se passer leur opération. Et donc c'est vraiment une grande fierté pour moi d'avoir appris ça.
Vous avez combien d'abonnés désormais ?
On est autour des 270 000 là, je crois, c'est ça sur, c'est,
ah oui,
c'est énorme.
En très peu de temps finalement.
En quelques vidéos, c'est vrai, ça s'est vite monté. J'ai eu beaucoup de chance.
L'objectif aussi de ces vidéos, c'est de faire passer des messages, notamment sur l'importance du don d'organes.
Oui, par exemple, c'est vrai que quand j'explique un don d'organes, c'est clair que je passe le petit message pour dire que ça, c'est vraiment important, que ça sauve des vies. Ça, c'est vrai, oui, il y a des messages qui sont passés, j'espère.
Et au-delà de ces vidéos, est-ce que votre voie est toute tracée désormais? Vous allez devenir chirurgien?
Ah, il n'y a rien de tracé, rien de moins sûr. Bah, j'aimerais beaucoup, ce serait vraiment ce que j'aimerais faire. Mais cette année, je suis en 6e année de médecine, il y a un gros concours qui s'appelle l'ECN qui va décider de ma spécialité et de la ville dans laquelle je vais exercer. Et donc c'est un classement, c'est un concours, donc je vais tout faire pour avoir ma place de chirurgien, mais il n'y a rien de fait encore.
En tout cas, vous avez gardé la main grâce à vos vidéos. Merci beaucoup Romain Goncet de nous avoir partagé votre initiative, vos vidéos dans lesquelles vous opérez donc des fruits comme si c'était des humains. Ça se passe sur TikTok et le nom de votre compte, c'est Fruits Rurgie. Tout est dit, je crois. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup, bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil sur Europe 1, on est ravis de vous accompagner jusqu'à 6h30 avec au programme de la prochaine demi-heure, la prescription culture. Margot Barallon a choisi pour nous une série apocalyptique. Imaginez une épidémie qui épargne les femmes du monde entier mais décime tous les hommes sauf un, ça s'appelle Y, le dernier homme, et on en parlera dans une vingtaine de minutes. Mais avant cela, Omblin, la France s'apprête à légiférer pour mettre fin aux thérapies de conversion.
Oui, il était temps, les thérapies de conversion, Julien, comprenait guérir avec d'énormes guillemets, hein, comme si c'était une maladie, les homosexuels et les personnes qui se choisissent un autre genre que celui de leur naissance. Les thérapies de conversion exportées des États-Unis au milieu des années 90 sont pratiquées par des prêtres, des pasteurs, des groupes évangéliques, mais pas uniquement. Elles existent aussi dans le monde médical et sociétal. Nous serons dans 10 minutes avec le journaliste Jean-Louis Adenor qui a beaucoup enquêté sur ces thérapies de conversion dans le monde religieux.
Elle est enfin arrivée, le taxi l'a déposée au pied de la radio. Anissa Haddadi pour vous servir avec la météo. Et 6 départements en vigilance ce matin.
Oui, alors attention, vigilance orange au cru pour l'Ardèche et le Gard. Vigilance orange pluie-inondation pour le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Et vigilance orange aux orages pour le Var et les Alpes de Haute-Provence. Alors ce matin, déjà, nous avons une bande pluvieuse assez importante qui va de Perpignan jusqu'à Strasbourg avec de fortes pluies déjà à 5 heures sur Besançon, Lyon, Saint-Étienne, Montpellier et Marseille. Nous avons quelques petites gouttes qui arrivent sur les Pays de la Loire et sur Nantes en particulier. Alors de manière général, c'est dans le sud-est hein, qu'il va y avoir de plus fortes pluies encore aujourd'hui avec ces vigilances. Un sud-est touché avec des cumuls importants cet après-midi. Des pluies qui vont devenir orageuses sur le Var et la Corse. On va vraiment suivre ça de près. Le temps reste pluvieux toute la journée sur la façade est entre l'Alsace et les Alpes. Et puis à l'ouest, sur la Normandie, les Pays de la Loire et la Gironde, on a quelques petites averses locales qui vont se développer dans l'après-midi. Entre ces deux zones, de la région parisienne aux Pyrénées, en passant par l'Auvergne, bah là on a un temps plutôt sec avec quelques éclaircies. 7 à 18 degrés sont les températures ce matin, c'est assez doux cet après-midi. 13 à Belfort, c'est frais. 19 à Paris et 30 pour Ajaccio, c'est chaud.
Prudence donc dans le sud. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon lundi à tous à l'écoute d'Europe 1. Votre journal, il est 5h30.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
La France renoue avec l'atome, c'est une information Europe 1. Emmanuel Macron devrait annoncer prochainement la construction de mini-centrales nucléaires en France. Les obsèques de Bernard Tapie auront lieu vendredi à Marseille. Une chapelle ardente va être dressée la veille au stade Vélodrome. La ville se prépare à rendre hommage à celui que les supporters de l'OM appelaient le boss. La France et les États-Unis tentent de faire comme si la crise des sous-marins n'avait pas existé. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite à Paris. Et des médecins payé directement par les collectivités locales. C'est l'expérience menée dans le Pas-de-Calais. Le département embauche 3 généralistes pour pallier la pénurie de médecins dans la région. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Même les économistes s'inquiètent. L'inflation affole les compteurs. Un seul chiffre, celui de l'indice des prix à la consommation dans la zone euro, plus 3,4% en septembre. Et la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité n'a pas encore été prise en compte.
Cette envolée du coût des prix de l'énergie relance le débat sur le nucléaire.
Une filière contestée mais dont on redécouvre les vertus en temps de crise, surtout ceux qui ont un œil sur l'Elysée, qu'ils soient candidats déclarés ou non. Et ce matin, Louis de Ragnel, vous nous dites qu'Emmanuel Macron va entrer lui aussi dans le débat à sa façon. C'est une information Europe 1. Le président a l'intention d'annoncer la création de mini-centrales nucléaires.
Absolument. Ça fait à peu près 6 mois que l'Élysée y réfléchit pour des raisons énergétiques, mais aussi, vous l'avez compris, pour des raisons politiques venues de la droite. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas s'exprimer véritablement sur le nucléaire avant la réalisation d'études approfondies sur le 3e réacteur, l'EPR de la centrale de Flamanville. Et donc, pour ne pas se renier, le président a cherché une parade, un plan B, et quoi de plus séduisant pour lui que des SMR, c'est-à-dire des mini-centrales nucléaires moins contraignantes, moins gênantes, plus acceptable. Le chef de l'État a mis la pression sur EDF, mais le problème c'est que l'entreprise n'est pas en mesure de dire avant 2022 si elle est capable de produire des SMR français, car à ce stade, ça n'existe pas. Alors Emmanuel Macron est un peu coincé, il pourrait tout à fait annoncer une accélération des études sur Flamanville, mais selon nos informations, il a bien l'intention de couper l'herbe sous le pied de la droite en annonçant la création de ces mini-centrales nucléaires, même si elles ne devraient pas voir le jour avant une dizaine d'années. Un temps qui pourrait être raccourci s'il décidait de les acheter à l'étranger, une possibilité qui devrait être écartée pour des raisons de souveraineté.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
La disparition hier de Bernard Tapie est encore sur toutes les lèvres. Il suffit pour cela de regarder la presse ce matin.
À jamais le boss, titre l'Équipe qui lui consacre 21 pages. Il était le battant pour le Parisien aujourd'hui en France. Libération rappelle de son côté les déboires judiciaires d'un businessman touche à tout. On y voit un Bernard Tapie en noir et blanc et ce titre, toute affaire cessante, comme pour mieux souligner la part d'ombre d'un personnage haut en couleur.
Il faut dire que Bernard Tapie n'a jamais laissé personne complètement indifférent.
Et surtout pas à Marseille, ville qu'il a placée au centre de la carte lors de ses années à la tête de l'OM. C'est d'ailleurs là-bas qu'auront lieu ses obsèques vendredi, en la cathédrale de la Major, et l'on se prépare déjà à lui rendre hommage. Reportage Stéphane Burgat.
Comment rend-on hommage à l'homme aux mille vies de manière grandiose, selon les Marseillais, en amont des obsèques de Bernard Tapie?
Mais oui, oui, grandiose, grandiose. Et il aimait quand même papa ici, hein.
Une grande fête, un feu d'artifice comme il avait l'habitude de faire dans les grands matchs de l'OM, dans les belles victoires. Je pense que ça va être quelque chose d'énorme. Voilà à son image.
Mais certains espèrent plus, comme hier quand des supporters à grand renfort de fumigène ont accroché une immense banderole dont ils ont le secret sur le parvis du stade pour le renommer en Bernard Tapie Vélodrome. Alors les choses ne prendront peut-être pas cette tournure, mais il y aura quelque chose de fait, promet l'adjoint au sport de la mairie, Sébastien Gibrayel.
On doit l'honorer, alors peut-être sur une rue, peut-être sur un stade, en tout cas ça s'y réfléchit, mais oui bien sûr que Bernard Tapie aura une tribune ou un parvis à son nom à Marseille, ouais, ça c'est sûr. Je suis heureux aussi de voir que l'Olympique de Marseille a répondu à la volonté de la famille d'ouvrir le stade Vélodrome pour le dernier voyage de Bernard Tapie. Ce dernier voyage, il est indispensable.
Et quoi qu'il advienne, une petite part de Bernard Tapie restera éternellement, nous dit un supporter en pointant du doigt l'étoile dorée du titre de champion d'Europe qui est brodée sur tous les maillots de l'OM. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
Et l'OM qui s'est incliné 2-0 hier soir face à Lille, mais cela n'empêchera pas le Vélodrome de rendre un nouvel hommage à Bernard Tapie. Une chapelle ardente se tiendra au stade dès jeudi. Les obsèques auront lieu le lendemain, vendredi, en la cathédrale majeure de Marseille. Bernard Tapie sera ensuite enterré au cimetière de Mazargues.
2 semaines après la crise des sous-marins français et américains.
Grâce à sa maniabilité, mais aussi sa parfaite condition physique. Ensuite, méfiez-vous des numéros 5 d'Elmonica, déjà lauréate sur ce tracé de vitesse, et 4 caïds dorés sachant finir ses courses. Enfin les numéros 1, Cartago Della, 10, Vapienzo Gare et 6, Cœur de Loup compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 7, 9, 5, 4, As, 10 et 6.
Des pronostics qui sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger et à demain, il est 5h39. Dans un instant, nous parlerons de la proposition de loi interdisant les thérapies de conversion. A tout de suite.
Nouveauté Europe 1.
Verveine Underground.
Verveine Underground. Votre rendez-vous musical emmené par Mouloud Achour.
Verveine Underground. 20h-22h sur Europe 1.
C'est le temps.
Un mix de musique éclectique, de DJ et d'invités.
C'est nous le futur, hein.
C'est nous le futur.
Verveine Underground par Mouloud Achour.
Nous contrôlons tout ce que vous allez entendre.
2 heures de son qui vous racontent le monde. Ce soir à 20h sur Europe 1, votre appli et europe1.fr.
Underground. Tout savoir sur la mobilité électrique avec l'offre Mobility de Total Energy. Comment Total Energy accompagne les entreprises qui intègrent de plus en plus de véhicules électriques dans leur flotte? Dans un instant, on vous en dit plus sur la carte Fleet de Total Energy. Quoi?
Les caresses? Avec Poltron et Sofa, on voudrait que jamais ça ne s'arrête, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Si vous voulez profiter de la collection caresses à partir de 489 euros seulement, vous avez jusqu'à samedi. Mais ne le dites à personne, ces caresses vont avoir du succès.
Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà!
Qualité authentique, vérifiée. Conditions en magasin.
Je vois qu'on a loué du bon matériel, patron.
Bah oui, moins 50% sur toutes les locations Loxam pour nous les artisans. Ça donne envie de chantier, non?
Jusqu'au 30 octobre 2021, c'est les bons jours artisans chez Loxam. Moins 50% sur toutes vos locations de matériel et outillage dans nos 500 agences en France. Loxam, exigez plus de la location. Conditions de l'offre sur loxam.fr.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h41, bon réveil et bienvenue à vous sur Europe 1. Ils prétendent guérir l'homosexualité et la transsexualité comme si c'était une maladie. Eh bien, ils vont bientôt devenir hors la loi. Une proposition de loi compte sanctionner ce qu'on appelle les thérapies de conversion qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les personnes victimes de ces pratiques. Le texte sera examiné en séance publique par les députés demain. On en parle en bline avec le journaliste Jean-Louis Adenor, co-auteur du livre « Dieu est amour ».
Bonjour Jean-Louis Adenor.
Bonjour.
Ce livre « Dieu est amour », vous l'avez écrit avec Timothée de Roglaudre. Vous avez co-signé également un documentaire qui a été diffusé sur Arte, « Homothérapie, conversion forcée ». Vous avez beaucoup enquêté sur ces thérapies de conversion dans le monde religieux. Vous les avez même infiltrées, tant il est difficile d'obtenir des informations en restant à l'extérieur. Pouvez-vous nous rappeler ce que sont ces thérapies de conversion ?
Alors, les thérapies de conversion, c'est un ensemble de pratiques. Nous, on a enquêté et travaillé particulièrement sur le courant chrétien, donc évangélique et catholique. Mais une thérapie de conversion, c'est tout type de pratique pseudo-psychologique ou spirituelle qui vise à modifier la relation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne.
Vous le racontez, hein, le but de ces thérapies, c'est de soi-disant aider une personne homosexuelle à retrouver le chemin de l'hétérosexualité. Mais en réalité, il y a des victimes à la fin.
Absolument. Quand on a commencé ce travail, le phénomène était assez peu documenté en France. On s'est rendu compte aujourd'hui que de nombreuses victimes se sont fait connaître, qu'un collectif s'est organisé, qui reçoit encore des témoignages. Mais oui, la théorie qui soutient ces pratiques, c'est qu'on peut effectivement ramener les personnes homosexuelles vers une saine hétérosexualité, donc évidemment avec les guillemets qui s'imposent. Et je précise, parce qu'il faut toujours le rappeler, qu'évidemment ces pratiques ne fonctionnent pas, qu'elles sont la cause de problèmes psychologiques graves, comme notamment des dépressions, et qu'elles peuvent parfois même donner des sévices physiques importantes. On a le cas qu'on rapporte dans notre livre d'un homme qui a subi 8 exorcismes, qui a mis des années à s'en remettre et qui a fait un parcours très courageux pour aujourd'hui parler de ses pratiques.
Vous êtes vraiment tourné vers des cercles religieux. Quel regard porte l'institution religieuse sur les thérapies de conversion et comment réagit-elle? Alors, surtout 2 ans après la sortie de votre livre, d'ailleurs.
Alors, si vous voulez, c'est une réaction un peu complexe. En fait, du côté des évangéliques, donc le Conseil national des évangéliques de France a condamné ces pratiques, ce qui est un pas en avant significatif. En revanche, du côté catholique, du côté de la Conférence des évêques de France, on sent que le sujet les met très mal à l'aise. Il y a cette idée selon laquelle l'Église catholique est suffisamment malmenée par les affaires de pédophilie et qu'il ne faudrait pas en rajouter, ce qui est à notre sens vraiment préjudiciable, parce que ce qui s'est passé avec les scandales de pédophilie, c'est aussi la réaction de l'Église qui a causé problème, qui a retardé l'information sur ce phénomène. Et c'est à peu près la même chose qui se repasse, c'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir ou vouloir en parler fait que certaines victimes peuvent se sentir trahies par leurs églises, et c'est elles-mêmes qui demandent aujourd'hui à ce que les évêques de France condamnent ces pratiques.
Quand on lit votre livre, qu'on écoute votre témoignage, hein, je rappelle vous qui avez infiltré un groupe évangélique et un groupe catholique, quand on se rend compte de la détresse des victimes de ces thérapies de conversion, on peut penser naturellement que cette proposition de loi va faire l'unanimité, non ?
On peut le penser, on peut penser que ça serait l'unanimité. On pense effectivement que c'est un sujet assez consensuel, en tout cas au niveau des députés. Ce qu'il faut voir en revanche, c'est que le chemin d'adoption du texte a été compliqué, que le travail de Laurence Van Sonbrock, qui est la députée LREM, qui a mené une mission d'information sur ce sujet, a été rendu il y a déjà longtemps, que le projet de loi avait été rédigé. Puis finalement, le gouvernement nous a expliqué que les moyens légaux existaient déjà, qu'on pouvait avoir recours à l'abus de faiblesse ou à l'exercice illégal de la médecine, ce qui en fait dans les faits n'est pas vrai, puisque ces pratiques existent en France depuis une trentaine d'années, ce que nous avons documenté. Les victimes existent aussi, puisqu'aujourd'hui elles sont sorties du bois, beaucoup d'entre elles ont pris la parole, et pourtant il n'y a encore eu aucune condamnation, ni aucune action en justice qui a été entreprise. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un besoin d'une prise en considération du phénomène comme un phénomène spécifique, avec des victimes spécifiques, et que moi, par exemple, dans les groupes que j'ai infiltrés, je n'ai pas vu d'exercice illégal de la médecine. Ça ne se rapproche pas de ça. Les victimes ne se reconnaissent pas dans ce délit-là.
Quand on s'attaque à l'identité de genre, c'est aussi une thérapie de conversion ?
Absolument. C'est d'ailleurs des sujets qui sont abordés par ces groupes-là. Moi, j'ai entendu dans mes infiltrations des propos extrêmement virulents et très violents sur les questions de transidentité. C'est pour ça que le travail qu'a mené Laurence Van Zandbroek a pris en considération la question de la transidentité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les victimes qui se sont réunies au sein d'un collectif Rien à guérir estiment que c'est capital également de prendre en considération cette question de la transidentité. Si vous voulez, les théories qui sous-tendent ces pratiques font de la question du genre le problème fondamental pour eux, et bien sûr je tiens à préciser que ces théories sont invalidées depuis déjà pas mal de temps par la psychologie moderne. Pour eux, l'orientation sexuelle et le genre, c'est à peu près c'est la même question, c'est-à-dire que si un homme en vient à être attiré par un autre homme, c'est qu'au fond il se sent femme. Donc il y a une confusion terrible qui est faite par ces groupes-là sur les mécanismes qui sont à l'œuvre, et les pratiques qui en découlent sont des pratiques qui sont des pratiques confuses, qui instillent des idées homophobes et transphobes dans l'imaginaire et dans la pensée de ces personnes qui passent par ces groupes. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est important de prendre en considération la question de la transidentité.
Merci beaucoup, Jean-Louis Adenauer. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez co-signé le livre « Dieu est amour » paru aux éditions Flammarion. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Il est 5h47 sur Europe 1 et il est grand temps de parler culture. Et le lundi, c'est le choix série avec vous, Margot Barallon.
Bonjour Margot.
Bonjour.
Et ce matin, Margot, vous nous conseillez d'aller regarder du côté de la plateforme Disney+.
Oui, parce que vous allez y trouver une excellente série américaine qui parle d'apocalypse et de politique, rien que ça. Ça s'appelle Y, le dernier homme, et tout commence avec l'apocalypse. Donc, nous sommes à la Maison Blanche et le président américain Ted Campbell ne le sait pas, mais il vit ses derniers instants.
Qu'est-ce qui se passe ?
On nous transfère en cellule de crise. On a reçu un appel de détresse en provenance d'Israël.
Un appel de détresse ? À propos de quoi ?
La ligne n'est plus opérationnelle. Personne ne décroche.
Personne ne répond en Israël ? Monsieur le président, vous tenez ? J'ai un mouchoir.
Non. C'est pas grave, ça va aller.
Oh mon Dieu, vite ! J'ai besoin d'aide, vite !
Monsieur le Président, vous l'entendez ?
Et il n'y a pas que lui, une maladie mystérieuse emporte tous les êtres humains porteurs du chromosome Y, tous les hommes donc, d'un coup, d'un seul, il n'en reste qu'un. Yorick, le Y du titre, qui a survécu pour une raison totalement inconnue, avec Esperluette, son singe de compagnie.
Des séries post-apocalyptiques, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait, Margot, que celle-ci ait réussi ?
Parce qu'en réalité, l'apocalypse n'a pas grande importance. Le premier épisode est d'ailleurs bien fait, mais un peu trop classique. C'est quand la série s'intéresse à l'après-drame qu'elle devient intéressante. Elle explore évidemment les douleurs intimes provoquées par ce qui reste quand même la mort de la moitié de la planète, mais aussi les conséquences collectives. On est face à une réflexion sur la politique et le genre. Ce que raconte Y, le dernier homme, c'est d'abord à quel point les femmes sont absentes de certaines sphères économiques ou de pouvoir, ce qui fait que sans les hommes, eh bien, plus rien ne fonctionne, en tout cas au départ.
Dans 10 jours, nos réserves de charbon seront épuisées. Les centrales nucléaires vont commencer à s'arrêter.
On entrera dans l'âge des ténèbres, sans nourriture, sans eau potable, sans électricité.
Désolée, de quelle ville nous sommes en train de parler ?
De toutes les villes.
Évidemment, les femmes vont combler ce vide ou tenter de le faire. La série montre aussi la place des hommes transgenres, puisqu'à l'exception de Yorick, ce sont les seuls qui restent. Et ça n'a rien d'une leçon moralisante. Sans hommes, il y a toujours des complotistes, des tentatives de putsch, des abus de pouvoir. L'arc narratif le plus intéressant, c'est d'ailleurs celui de Jennifer Brown, une sénatrice qui devient présidente, puisqu'elle est la survivante la plus haut placée dans le système politique américain, jusqu'à ce qu'on en trouve une autre, Regina Oliver. Le problème, c'est que cette Regina Oliver est une extrémiste extrémiste religieuse, suprémaciste blanche et anti-vax.
Ça ne devrait pas engendrer une crise constitutionnelle immédiate?
C'est le cas, c'est probable. J'aime pas ça non plus. Mais Regina Oliver peut légitimement prétendre à la présidence.
Oh, pitié. L'ordre de succession, ça n'a plus autant d'importance.
C'est pas parce que ça vous arrange pas qu'il faut renier la constitution.
Écoutez, Ted Campbell était une belle personne et c'était un ami. Mais c'était un secret pour personne que Regina Oliver, c'était pas la meilleure décision
maintenant,
de sa vie.
Maintenant, on va faire semblant de croire que c'était juste une erreur.
S'il vous plaît.
Il aurait pas pu gagner sans les racistes. Même avec ses alliances électorales.
Il pouvait pas deviner ce qui allait se passer. Aucune d'entre nous.
Il a engagé une folle totalement illuminée dans son administration et maintenant qu'il est mort, on doit faire avec.
Et c'est ça, la force de la série. Et ce qui m'a plu, la fin du monde n'est qu'un prétexte. Ce sont bien les choix politiques, les choix sociétaux que l'on fait aujourd'hui et maintenant qui sont en question.
Merci beaucoup Margot Barallon. La série Y, le dernier homme, c'est donc à voir sur la plateforme Disney+.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
L'info fait son retour à 5h51, c'est le journal permanent avec vous, Alban Le Prince.
C'est une information Europe 1, la France serait sur le point de renouer avec le nucléaire. Emmanuel Macron pourrait annoncer dans les toutes prochaines semaines la création de mini-centrales, en réponse notamment à la flambée des prix de l'énergie. Adieu boss, titre l'édition spéciale de la Provence. Plus dommage après le décès de Bernard Tapie, hier des suites d'un cancer. Une messe sera célébrée après-demain à Paris, avant l'ouverture d'une chapelle ardente au stade Vélodrome jeudi. Le lendemain, ses obsèques se dérouleront à la cathédrale majeure de Marseille. Il sera ensuite inhumé au cimetière Mazargues. Un chiffre, de 1900 à 3200 pédocriminels ont été recensés dans l'église depuis les années 50. Estimation minimale, précise le président de la commission Sauvé, dont le rapport explosif doit être publié demain. Et puis 17 ans après le naufrage du chalutier Bugalette-Braise, qui avait fait 5 morts au large des Cornouailles, ouverture aujourd'hui à Londres de 3 semaines d'audience. Les familles espèrent enfin la vérité sur les circonstances du drame.
Europe Matin.
L'actualité s'écrit aussi au plus près de chez vous, dans vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit.
Bonjour Jean-Marc Chevauché.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du Courrier Picard, où l'on peut lire ce matin un article sur une jeune entreprise qui a mis au point une clôture anti-sanglier.
Oui, c'est une entreprise Picard qui a mis au point, comme vous venez de le dire, une clôture connectée pour stopper les sangliers. Alors, c'est une entreprise de la région. Nous sommes dans une région où il y a énormément de gibier. Il y a tout de même de grandes forêts dans l'Oise et dans l'Aisne notamment. Et il y a, comme partout en France, où il y a du gibier, des dégâts colossaux qui sont générés par le passage des sangliers, puisque tous les ruraux le savent, un sanglier qui a envie de passer quelque part, il fonce tête baissée et évidemment quand c'est des cultures, eh bien, il détruit les cultures des agriculteurs.
Vous nous donnez d'ailleurs un chiffre, 80 millions d'euros par an de dégâts provoqués par le gibier.
Oui, alors c'est un chiffre qui est connu des paysans comme des chasseurs, et ce qu'ignorent souvent les gens qui ne sont pas du monde rural ou qui ne pratiquent ni la chasse ni qui ne sont agriculteurs, c'est que les dégâts causés par les gibiers, les grands animaux, sont évidemment ont un coût, et ce coût, il incombe aux fédérations de chasse. C'est-à-dire que les chasseurs, avec le droit de chasser, ont aussi le devoir d'entretenir la faune sur le territoire. Et si le gibier commet des dégâts, c'est de la responsabilité des fédérations de chasse. Donc évidemment, comprenez que les dégâts causés par les sangliers coûtent cher aux chasseurs et ils ont vraiment envie que ça s'arrête, mais 80 millions d'euros, c'est effectivement une somme énorme.
Alors des clôtures pour stopper le gibier, il y en a déjà, mais qu'est-ce qu'elle a en plus celle-ci?
Alors elle a en plus qu'elle est très rapide à installer, et ce qui est tout à fait capital pour les agriculteurs qui veulent défendre leurs parcelles. Ça va très très vite, c'est facile à se dérouler et surtout, elle est connectée. C'est-à-dire que la pose de clôture, évidemment, c'est toujours efficace pour empêcher des gibiers de traverser les pièces de culture. Mais là, elle est déroulable à une vitesse grand V. Elle peut se déployer jusqu'à 8 km de clôture par jour. Et surtout, elle est modulaire, elle peut faire face à toutes les situations. Et elle est connectée, c'est-à-dire qu'elle consomme peu de courant. Et le courant qu'elle consomme dure le temps d'un cycle végétatif, c'est-à-dire une saison de culture, ce qui est évidemment l'idéal pour les agriculteurs, pour ne pas aller entretenir la clôture en permanence. Et en plus, cette connexion leur permet de surveiller à distance la moindre chose qui arrive sur la clôture. Ils en sont prévenus par un SMS.
Oui, et puis il faut préciser que cette clôture, elle est électrifiée. Hein. Ce n'est pas une clôture inerte qui empêche les sangliers de passer, parce que ça, ça ne marche pas très bien.
Non, non, c'est évidemment électrifié. Ça va sans dire, pour le gros gibier, on ne peut pas faire autrement.
Merci beaucoup Jean-Marc Chevauché de nous avoir fait découvrir cet article, à lire donc aujourd'hui dans le Courrier Picard, article sur cette clôture connectée, électrifiée, anti-sanglier. Bonne journée et à très bientôt.
Au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil, il est 5h57 et c'est l'heure, Julien, de faire un point sur ce qui vous attend dans les minutes qui viennent.
L'histoire d'un homme parti de rien qui a débuté sa carrière en vendant des téléviseurs pour finir sur le toit de l'Europe avec son club, l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie a connu 1000 vies avant de s'éteindre hier des suites d'un cancer. Une vie dans les affaires, une autre en politique, une vie dans les prétoires, une autre sur scène. Un parcours hors norme qui a marqué des générations de Français, a salué hier Emmanuel Macron. Parcours qui est une leçon de vie, de mort et d'amour. C'est le titre du livre sur Bernard Tapie qu'a écrit son biographe Franz-Olivier Gisbert. Nous serons en ligne avec lui dans une dizaine de minutes. Et puis juste après, qu'allez-vous nous faire écouter, Omblin ?
Celle qui a disparu il y a 51 ans aujourd'hui. Janis Joplin, devenue en l'espace de 3 ans la première femme star du rock et du blues. Rendez-vous dans 20 minutes.
Mais avant, on fait un point sur la météo avec vous, Anissa Haddadi, et grande prudence dans le sud-est.
Oui, on va vraiment surveiller la situation dans le sud-est de très près aujourd'hui, puisque nous avons le Var, les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence, l'Ardèche, le Vaucluse et le Gard en vigilance orange. Alors, pour orage, pour crue et pour pluie, inondation. Donc, la perturbation pluvieuse et venteuse hein, qui a touché la France ce week-end, elle a balayé tout le pays. Elle se trouve aujourd'hui sur l'est du pays. Alors, on aura quand même de la pluie en Alsace, en Lorraine, en Franche-Comté, en Bourgogne, sur la région Rhône-Alpes. Mais c'est en Provence et même jusqu'en Corse qu'il pleut beaucoup aujourd'hui, déjà ce matin. Alors cet après-midi sur la Provence et la Corse, les pluies vont devenir orageuses avec de forts cumuls attendus, avec des chutes de grêle et avec surtout beaucoup de vent. Hein. On a des rafales de vent du nord assez fortes aujourd'hui. Sur le reste du pays, ça va un peu mieux. Hein. Entre les Hauts-de-France et les Pyrénées, en passant par la région parisienne, l'Auvergne et le Limousin, là on a de belles éclaircies cet après-midi. À l'ouest, quelques petites averses, mais c'est surtout dans le sud-est qu'il va falloir être prudent.
Merci beaucoup Annie. Anissa Haddadi, vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous, c'est votre journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Le mystère du Buguelette-Braise. En 2004, ce chalutier breton coule dans les eaux anglaises. Parmi les hypothèses, un accident provoqué par un sous-marin. La justice britannique relance aujourd'hui l'enquête. Les obsèques de Bernard Tapie, vendredi à Marseille. Une chapelle ardente sera installée la veille au stade Vélodrome. Un adieu à celui que les supporters de l'OM surnommaient le boss. Et puis la journée mondiale des animaux. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui dans un refuge SPA de Haute-Saône, alors que le bien-être animal est l'un des thèmes surprise de cette campagne électorale. Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. 17 ans plus tard, ce naufrage reste un mystère, celui du Buguelette-Braise. Le chalutier breton a sombré dans les eaux anglaises en janvier 2004. Viens vite, je chavire, les derniers mots du capitaine. Lui et ses quatre marins ne remonteront jamais à la surface. Au même moment, plusieurs sous-marins participent à des exercices militaires.
Eh bien, c'est une nouvelle chance de connaître la vérité, mais ce n'est pas un procès. Personne n'est en position d'accuser. L'inquest est une enquête publique menée par un juge. Son but, établir les circonstances et les causes de la mort des marins Yves Glohagen et Pascal Le Floch. C'est parce que leurs corps ont été retrouvés dans les eaux anglaises qu'une procédure au Royaume-Uni a été possible. Pendant 3 semaines, le juge Nigel Lickley, à la tête de l'inquest, va permettre à la cour d'examiner certaines preuves et d'entendre plusieurs témoins. Parmi eux, Andrew Coles, l'ex-commandant du HMS Turbulent, un sous-marin de la Royal Navy, mis hors de cause par la justice française, mais toujours jugé suspect par les familles des victimes. 17 ans après le naufrage, c'est la première fois qu'Andrew Coles sera entendu. Et en cas d'aveu ou preuve permettant d'expliquer le drame, la réouverture d'une procédure en France n'est pas exclue.
Les précisions d'Anaïs Cordoba, correspondante à Londres pour Europe 1.
À jamais le boss, titre du journal L'Équipe ce matin, le quotidien
quotidien sportif salue Bernard Tapie, mort hier à 78 ans.
Tapie, le boss de l'Olympique de Marseille. L'ancien patron de l'OM amènera son équipe sur le toit de l'Europe avec une victoire en Ligue des Champions. Hier, Marseille s'est déplacé à Lille pour la 9e journée de Ligue 1. Dans le stade Pierre Mauroy, pas de minute de silence, mais un brassard noir pour les joueurs et une photo affichée quelques secondes sur les écrans géants sous les applaudissements des supporters.
C'est une ferveur, c'est vraiment une personne, on n'a pas de mots, c'est le boss. C'est lui qui a créé la légende, quoi, qui a fait en sorte qu'on soit supporter de Marseille. Quoi. Et franchement, c'est beau et à la fois c'est triste.
L'émotion de ce supporter marseillais au micro de Stéphane Bouet pour Europe 1.
Bernard Tapie, l'homme de Marseille, écrit ce matin Emmanuel Macron dans une lettre publiée dans le journal La Provence. Une chapelle ardente sera installée jeudi au stade Vélodrome avant des obsèques vendredi à la cathédrale de la Major. Bernard Tapie sera enterré au cimetière de la Mazargue au sud de la ville.
Et puis j'ajoute qu'on apprend à l'instant que les Bouches-du-Rhône sont placées en vigilance rouge en raison de fortes pluies. 6h03, la suite de votre journal et cette déflagration qui attend les catholiques de France. Le rapport de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'église sera remis demain.
2 ans et demi d'enquête, 1300 pages pour répondre à cette question. Combien de victimes? Une estimation à 6 chiffres selon plusieurs sources de la commission. Hier, lors de la messe du dimanche, plusieurs prêtres se sont adressés à leurs fidèles. Une prière universelle lue notamment à Lourdes.
Prions pour toutes les personnes qui ont subi des violences sexuelles dans l'église, dans leur épreuve. Qu'elles puissent toujours compter sur ton appui et notre soutien. Donne-nous ton esprit d'humilité pour qu'à l'image de ton Fils, nous sachions prendre soin des plus fragiles et faire de notre Église une maison sûre.
Une maison sûre où il y a eu au minimum entre 2900 et 3200 pédocriminels depuis les années 50. Chiffre donné hier par Jean-Marc Sauvé, le président de la commission.
Une question délicate à présent, débattue aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre 2015. Dans le chaos de cette nuit d'horreur, qui peut être considéré comme une victime?
La journée sera consacrée au dossier de nouvelles parties civiles qui se sont déclarées au tout début du procès en septembre. 400 personnes, sociétés ou collectivités sont concernées. Gladys Lafitte.
Le parquet national antiterroriste les appelle les témoins malheureux. Un policier hors service intervenu rue de Charonne, un voisin de la belle équipe qui a aidé des blessés. Bref, des personnes qui ont subi un préjudice psychologique mais qui, juridiquement, ne peuvent pas être considérées comme des victimes directes, selon les avocats généraux. Leur cas sera étudié par la Cour aujourd'hui, tout comme la recevabilité, mise en doute par de récentes décisions de justice, des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés ou des collectivités, comme le Bataclan ou encore la ville de Paris, dont Patrick Klugman est l'avocat.
Ça n'a aucun sens de faire le procès de l'attentat du Bataclan sur le Bataclan. Ça n'a aucun sens de faire le procès des attentats de Paris sans Paris. La ville de Paris est visée spécifiquement dans l'acte de revendication. C'est à la fois incompréhensible et quelque part insupportable, surtout quand on sait le rôle qu'a tenu la collectivité, qui a accompagné les opérations de constatation, de déblayage, qui a relogé des victimes.
Les associations de victimes, elles, sont bien recevables comme partie civile. L'une d'elles, Life for Paris, soutient la constitution du Bataclan et de la ville de Paris.
Gladys Lafitte.
C'est la journée mondiale des animaux et pour l'occasion, Emmanuel Macron est attendu tout à l'heure dans un refuge de la SPA à Grès, en Haute-Saône.
Selon un sondage IFOP, près d'un électeur sur deux pourrait choisir son candidat en fonction des propositions sur le thème du bien-être animal. Dans le journal du dimanche, le candidat écologiste Yannick Jadot s'engage par exemple à sortir de l'élevage industriel. Jacques Serret, à 6 mois du scrutin, cette journée mondiale des animaux, c'est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour Emmanuel Macron.
Oui, et c'est même un passage indispensable, tant la cause animale est devenue un enjeu de société. Aujourd'hui, près d'un foyer français sur deux possède au moins un animal de compagnie. Emmanuel et Brigitte Macron eux-mêmes ont un chien, Nemo, un labrador noir croisé de griffons que le couple est allé chercher à la SPA 3 mois seulement après son arrivée à l'Élysée en 2017. Il faut dire que depuis le général de Gaulle, tous les locataires du palais ont eu au moins un chien, comme si l'image de président était forcément liée à la présence d'un animal domestique, démarche sincère ou simple outil de communication. Toujours est-il que la présence d'un chien ou d'un chat a le don d'augmenter naturellement le capital sympathie d'un politique. Emmanuel Macron le sait et à 6 mois de la présidentielle, il ne compte pas laisser ce terrain à sa principale concurrente, Marine Le Pen, qui s'affiche régulièrement avec ses chats. Selon un récent sondage, 47% des Français déclarent qu'ils pourraient voter en fonction des propositions d'un candidat sur le bien-être animal.
Voilà, chat contre chien donc en perspective. C'était Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Ça promet, c'était le journal de Romain Hoquet. Merci Romain.
Il est 6h07, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange du vélo pour commencer avec un enfer du Nord qui n'a jamais aussi bien porté son nom.
Et ce cri... mélange de joie et de larmes, c'est celui du vainqueur de ce Paris-Roubaix 2021. L'Italien Sonny Colbrelli, au bout de l'effort, remporte une course qui restera dans les annales de la pluie, de la boue, des chutes, des attaques du premier au 255e kilomètre. Après plus de 900 jours d'absence à la reine des classiques, a tenu toutes ses promesses. Ils ne sont d'ailleurs que 93 sur 174 au départ à avoir terminé. Et parmi eux, le Belge Philippe Gilbert, dernier vainqueur en 2019, impressionné par son successeur. On l'écoute.
Des chutes, des crevaisons, des défaillances, on a tout vu, c'est assez impressionnant. Ouais, depuis le championnat d'Italie, peut-être pas vraiment fait plus loin que la deuxième place, il était assez consistant et impressionnant, mais bon, il est très fort.
Philippe Gilbert au micro Europe 1 d'Axel May. Le premier Français, Christophe Laporte, finit sixième.
Il y avait du foot aussi hier, Martin.
Oui, avec un derby qui a tenu toutes ses promesses. Saint-Etienne arrache le match nul à la dernière minute contre Lyon grâce à un pénalty de Wabi Kazri. Score final 1-1. Les Verts stoppent une série de 5 défaites de suite. Un déclic, leur entraîneur Claude Puel l'espère.
Mais ça, on le saura, le prochain match. J'étais juste et simplement content pour mes joueurs qu'ils soient récompensés de leur opiniâtreté, de leur investissement. Pendant pas mal de temps, on a cru qu'on pourrait pas se débarrasser un petit peu de la Choumoune. C'est un bon point, je dirais, vu comment il a été. On est allé le chercher, mais il sera très bon si on est capable d'enchaîner derrière maintenant.
L'événement hier, c'est aussi la première défaite du PSG cette saison, 2-0 à Rennes. Défaite aussi pour Marseille à Lille, 2-0 également. Au classement, Paris reste leader et compte toujours 6 points d'avance sur le deuxième Lens. Dans la zone rouge, Saint-Etienne reste bon dernier et attend toujours sa première victoire.
Trois infos en bref pour terminer.
Du rugby avec la victoire de Clermont contre le Racing hier, 26-17. De la MotoGP, un titre de champion du monde qui nous tend les bras. Fabio Quartararo, deuxième hier à Austin, compte 52 points d'avance au classement général à 3 courses du but. Et puis du tennis, Gaël Monfils s'incline en finale du tournoi de Sofia. Défaite en 2-7 contre l'Italien Jannik Sinner.
C'était le journal des sports de Martin Lange. Merci Martin.
6h09 sur Europe 1, vous restez avec nous. Dans un instant, nous serons en ligne avec Franz-Olivier Gisbert, ami et biographe de Bernard Tapie qui nous a quittés hier. À tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h12. Bon réveil, bienvenue. Si vous arrivez à peine, il était un personnage hors du commun qui a marqué des générations de Français. À saluer Emmanuel Macron. Bernard Tapie est décédé hier à l'âge de 78 ans. Et nous sommes en ligne, Julien, avec son biographe et ami.
Bonjour François-Olivier Gisbert.
Bonjour.
Écrivain, journaliste, éditorialiste au Point, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez publié en juin dernier un livre sur Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour. C'est son titre, on va y revenir dans un instant. Mais avant, quelle a été votre réaction hier matin en apprenant sa disparition?
Écoutez, j'étais surpris, bizarrement, parce que je savais que ça allait très mal. Enfin, il tenait ferme, il prenait pas d'antidouleur, il résistait à la souffrance qui était terrifiante. Parfois, quand on voyait qu'il souffrait énormément. Et puis, disons, à la fin de l'été, il tenait un discours, je dirais pas défaitiste, parce que c'était pas son genre, mais quand même, c'est trop dur, j'en peux plus, c'est trop dur. Enfin, voilà, il parlait comme ça. Et disons, je savais que ces derniers jours, c'était la fin. Mais en même temps, j'ai pas pu m'empêcher d'être surpris parce qu'on se disait, mais c'est pas possible. Non seulement il va mourir vivant, mais il mourra pas. Tellement il y avait chez lui cette rage de vivre, cette énergie. Et c'était d'ailleurs tout à fait fascinant, aussi fascinant que bouleversant.
Il était l'image incarnée du combattant, que ce soit à travers sa vie, pleine de rebondissements, de hauts et de bas, mais aussi sa maladie, dont il n'a jamais caché la gravité.
C'était un guerrier. Et d'ailleurs, je pense qu'il pensait qu'il allait gagner. Je me souviens quand il m'a annoncé qu'il avait le cancer, là, tout de suite, en 2017, il disait, ouais, bon, c'est très très compliqué, là. On me dit qu'il y a très très peu de chances. D'ailleurs, j'ai regardé, j'ai vérifié. Mais bon, je vais y arriver. Parce que c'est quelqu'un qui ne lâchait jamais l'affaire et puis qui avait peur de rien. Vraiment pas froid aux yeux, quoi. Et le sentiment qu'avec la volonté, on peut tout faire.
Ça vous a fasciné, cette façon dont il a mené son combat face au cancer? Vous l'avez dit, notamment le fait qu'il refusait de prendre des antidouleurs.
Ouais, c'était bluffant parce qu'on voyait qu'il souffrait, on voyait qu'il s'en foutait, enfin, il souffrait et qu'il savait qu'il fallait qu'il souffre pour, comment dire, non pas voir la mort en face. Je dirais ça, c'est, d'une certaine manière, c'est assez facile. Mais lui, c'est quelqu'un qui regardait la douleur en face et qui étudiait sa douleur. Ça lui permettait de savoir où il en était. Et d'ailleurs, il déconseillait aux autres malades. Ça a été aussi son combat, parce que il s'est battu pour lui, il se battait aussi pour les autres cancéreux. Non, ne prenez pas tout de suite d'antidouleurs. Attendez, battez-vous. Et c'est vrai que, avec ce système, il est mort. Enfin, comment dire, il aurait dû mourir il y a très longtemps. Tous les médecins vous le diront.
Il aura été tour à tour chanteur, vendeur de télévision, homme d'affaires, acteur, député, ministre, président de l'OM, présentateur d'émissions et patron de presse. Il a fait aussi de la prison, connu des aventures extraordinaires. Quelle vie, quel appétit de vivre!
Oui, et en même temps, là, ce que vous dites, c'est tout à fait ça, parce qu'il y a des hauts et des bas sans arrêt chez Tapie. Hein. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. C'est toute l'histoire de sa vie. Et voilà, Phoenix, ou on peut dire, spécialiste de la résurrection, et il se plaint jamais, il cherche les moyens de remonter. J'ai jamais vu se plaindre, et d'ailleurs, dans les pires moments de sa vie, je me souviens, après un procès qu'il avait perdu, il en a gagné beaucoup, mais un procès qu'il avait perdu en 2015, je me souviens, il était complètement ravagé, la gueule, mais vraiment effrayante, c'était le matin, il avait pris la nouvelle, visiblement, la nuit avait été horrible, et il me disait, ouais, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai une belle vie, non, tu trouves pas? Mais quelle belle vie! C'est-à-dire que, vous voyez, il ne gémissait pas, c'était pas là. Il parlait jamais comme une victime. Pourtant, Dieu sait s'il m'a pris dans la gueule. Dieu sait s'il a été sali, calomnié par beaucoup de médias. Mais il ne se plaignait pas. C'était un écorché vif. Il prenait sur lui, mais il n'était pas là en train de montrer ses stigmates comme d'autres auraient pu le faire. Et quand il faisait des choses bien dans la vie, moi je veux dire, alors ça c'est le biographe qui parle, comme par exemple quand il accueille une petite fille qui a un cancer terminal, qui s'appelle Zora, eh ben, il va le faire sans jamais médiatiser la chose. Personne ne l'a su. Si j'avais pas appris ça par hasard, ça n'aurait jamais été su. Parce que il y a chez lui une forme de pudeur incroyable.
Oui, c'était un homme profondément passionné. Vous racontez notamment dans ce livre son affection pour son chien, alors qu'il était au plus mal à cause de son cancer. On parle là du fameux Boboy.
Oui. Alors là, je me souviens un jour, il était vraiment en larmes et je lui dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « j'ai perdu mon chien ». Et ce chien, c'était un chien qui était plutôt plus proche de sa femme, mais quand il est tombé malade, ce chien ne l'a pas quitté, quoi. Dormait avec lui, se mettait sur lui. Et comme il disait, Bernard, et ce chien, Boboy, me pompait ma souffrance et me rendait de l'énergie. C'était juste une histoire incroyable. Mais ça, c'est quelqu'un qui adorait les bêtes. Ça, c'est un
aspect d'un
tapis. Mais oui, bien sûr, mais la passion pour les poules, pour les chèvres, etc. Il était incollable. Et il pouvait en parler pendant des heures. Il adorait les animaux. Et puis la foi, c'est important aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout, mais il priait, vous imaginez. Tapie priait, en fait. La leçon de tout ça, c'est que Tapie n'était jamais celui que l'on croyait ou celui que l'on vous racontait. En fait, Tapie, c'était toujours un peu quelqu'un d'autre.
Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert, d'avoir partagé avec nous vos souvenirs de Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour. C'est le titre de votre livre aux presses de la Cité. À très bientôt sur Europe 1.
Au revoir, merci.
Il est 6h17 et vous restez avec nous sur Europe 1, Janis Joplin dans la partition. À tout de suite.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 6h20, voici les principaux titres de l'actu de ce lundi avec Alban Le Prince.
Information, Europe 1, Emmanuel Macron pourrait annoncer dans les prochaines semaines la création de mini-centrales nucléaires en réponse notamment à l'explosion des prix de l'énergie. Après le décès de Bernard Tapie, hier, des suites d'un cancer, une messe sera célébrée après-demain à Paris. Jeudi, une chapelle ardente sera ouverte au stade Vélodrome, suivi le lendemain de ses obsèques à la cathédrale majeure de Marseille. Il sera inhumé au cimetière Mazargues. Les Bouches-du-Rhône qui sont en vigilance vigilance rouge, pluie, inondation aujourd'hui où on attend de très importantes précipitations. Le Gard n'est plus en alerte, mais 3200 foyers étaient privés d'électricité hier soir suite à des chutes d'arbres.
On en revient à votre partition, Omblin. Elle s'est éteinte le 4 octobre 1970. Janis Joplin n'a connu que 3 années de gloire et en étant d'abord la chanteuse du groupe Big Brother and the Holding Company.
Ah oui, c'est le groupe qui a défini le son rock psychédélique des années 60 à San Francisco. La chanteuse texane est recrutée en 1966. En quelques mois, les musiciens hippies de Big Brother and the Holding Company contribuent à faire de Janis Joplin la plus grande artiste de blues rock de l'histoire. Lorsqu'elle passe du statut de simple chanteuse de groupe à celui de vedette, la séparation semble inévitable.
La collaboration entre le groupe et la chanteuse se termine en apothéose.
Oui, à New York, le 15 novembre 1968, devant un parterre d'artistes, de photographes et de journalistes sur scène, ses cheveux longs lui masquant une partie du visage, Janis Joplin est en transe. Comme possédé, ses hurlements d'agonie et de plaisir traduisent son état d'esprit entre peur et excitation. C'est la fin d'une époque et un nouveau départ.
Après ce triomphe, la chanteuse se met en recherche de nouveaux musiciens.
Oui, des musiciens interchangeables, hein, virés à tour de bras, remplacés aussitôt. Pas simple d'être à la hauteur du talent de la nouvelle patronne qui se voit pour la première fois dans l'obligation de prendre des décisions et surtout d'endosser le rôle de chef d'orchestre. Un groupe finit par prendre forme et se baptise Cosmic Band.
À l'image des répétitions, le premier concert dans le Tennessee est un désastre.
La presse ne mâche pas ses mots et titre « Janis Joplin est morte à Memphis ». Ce soir-là, pourtant, elle donne tout. Elle conserve ses grands succès pour le rappel. Mais voilà, les applaudissements sont si peu nombreux qu'elle ne remonte pas sur scène. Janis Joplin, perfectionniste, sans cesse angoissée, se retrouve dans un état psychique inquiétant et manque de succomber à une overdose au début de l'année 1969. Remise sur pied, ses démons ne la quittent pas pour autant et l'héroïne reste à portée de main. La drogue, dit-elle, lui permet de se sentir en paix avec elle-même.
La chanteuse s'envole alors pour l'Europe. Nouveau changement de musicien, c'est désormais le Cosmic Blues Band qui l'accompagne.
Elle renoue avec le succès et à son retour aux États-Unis, il est temps de mettre son premier album en chantier. Ce sera un disque de blues, comme s'il était vital de trancher avec ses enregistrements précédents. Un mois après Woodstock, Janis Joplin présente I Got Them All Cosmic Blues Band Again Mama et entre un peu plus dans la légende. Janis Joplin avec Cosmic Blues. Elle a succombé à une overdose le 4 octobre 1970, il y a 51 ans, on l'en avait 27.
La fameuse malédiction des 27 ans chez les rockers. Merci Omblin, on se retrouve dans un instant pour la suite de votre matinale avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.